dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la fois.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé. Moitié mouais dans mon cœur.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 19 octobre 2020. Et à l'international, aujourd'hui, on commencera donc par un sujet sur la Tunisie et des manifestations contre une nouvelle loi répressive. On enchaînera avec un sujet sur le Kirghizistan, au sujet de manifs contre la fraude électorale, et on continuera à l'international et terminera sur une ambiance de fin de règne, en Thaïlande.
Ensuite, on fera une petite pause musicale et on enchaînera au national avec un retour sur la manifestation à Paris samedi des sans-papiers à l'arrivée de la marche des solidarités. Puis, on fera un sujet contre l'Union sacrée. Ensuite, on parlera de l'expulsion du village de Donge, puis du décès d'une étudiante à Tours à cause du manque de moyens.
Et au local, on aura 2 sujets. Un premier sur la mobilisation contre une dentiste néo-nazie à Lyon. Et un point sur ce qui s'est passé ce week-end et les différentes mobilisations du week-end. Et bien sûr, nous finirons avec le traditionnel
agenda.
Et on commence tout de suite à l'international par un sujet donc sur la Tunisie.
Et les brèves alors?
Oui. Mais bien sûr, mais les brèves.
On commence tout de suite par les brèves.
Excuse-moi, à toi les brèves.
Ça ne vous aura pas échappé, Macron a déclaré un couvre-feu dans 9 métropoles à partir de 21h. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, il y a le méchant virus qui vous attaque le soir quand vous vous amusez, et il y a le gentil virus qui vous regarde travailler la journée. Pas de nouvelles mesures concernant les écoles donc, pas plus de moyens pour les hôpitaux non plus, mais un petit coup de pouce pour le tourisme et pour Papa Noël, puisqu'il n'y aura aucune interdiction de déplacement pour les vacances. Circuler, il n'y a rien à voir. Faut-il encore respirer par le nez et la bouche? C'est une question très très sérieuse qu'on se pose ici, depuis qu'on sait que des masques empoisonnés ont été distribués aux enseignants. Mais oui, souvenez-vous, à la rentrée, l'éducation nationale avait fourni à chaque enseignant 5 masques en tissu de la marque DIM pour lutter contre la propagation du virus. Or, ces masques sont traités à la zéolite d'argent, un biocide considéré comme toxique pour la santé. Si les piscines n'étaient pas toutes fermées, l'éducation nationale pourrait au moins payer à tous les profs un stage d'apnée. Le 15 octobre, les soignants étaient quelques milliers dans les grosses villes à manifester pour demander plus de personnel et plus de moyens. Cette fois-ci, il faut croire que le gouvernement a bien entendu le problème de manque de personnel, puisqu'il a sorti du chapeau une super solution, autoriser les soignants positifs au Covid à continuer à exercer. Bah oui, il est où le problème?
C'est bon, ça.
200 salariés du sous-traitant OMS Synergie à la centrale nucléaire de Gravelines dans les Hauts-de-France étaient toujours en grève la semaine dernière pour réclamer une prime ainsi que du personnel supplémentaire. Dans la sidérurgie aussi, ça se bouge puisque les salariés d'ArcelorMittal réclament une prime de 2000 balles. Ça se frite chez McDo, Street Press et Mediapart. On recueille 78 témoignages de salariés de McDo dénonçant des conditions de travail scandaleuses où règne sexisme, harcèlement moral, harcèlement sexuel ou encore grossophobie de la part des cadres. De quoi jeter de l'huile sous le feu. 400 000 ouvrières de la cueillette...
Festival.
On est chaud aujourd'hui. 400 000 ouvrières de la cueillette de thé sont en grève depuis le 9 octobre en Inde contre des salaires beaucoup trop bas et contre des promesses non tenues du gouvernement. Un mouvement qui touche aussi le Sri Lanka voisin. Un goût amer pour l'industrie du thé qui doit avoir l'impression de boire la tasse.
Et tout de suite, on enchaîne avec une petite chanson.
Et oui, pour à l'international, puisqu'on n'a pas encore malheureusement les résultats des élections en Guinée, mais on voulait faire un petit coucou à Alpha Condé qui règne donc sur la Guinée depuis maintenant 10 ans, à l'âge de 82 ans et à qui on souhaite de pouvoir prendre un repos bien mérité. Et on écoute donc tout de suite SPL 145, un rappeur guinéen qui habite à Lyon. Et voilà, on l'écoute.
C'est un pote et ça fait plaisir.
Yeah. Vas-y, dis-le. La lettre au président. SPL. Laisse tomber le pouvoir. Moi, je préfère ton départ. Enfin, avec tes vieilles. Rêver de tout trajet-toi. Laisse tomber le pouvoir. Moi, je préfère ton départ. Enfin, avec tes vieilles. Rêver de tout trajet-toi. Depuis ton arrivée, moi je suis vent douté. Dans un pays où l'argent avant des gens, le pouvoir rend malveillant. 40 ans de lutte politique, éternel problème d'Afrique. Venu comme un démocrate, devenu pire qu'un autocrate. Pensant qu'à son assassin, réformant la constitution. La Guinée n'est pas le royaume de Monsieur Condé. Seulement un état bien décidé à s'indigner. Face à tant de richesses bien volées. Un président qui sait sa propre nation. Pas étonnant qu'il surgisse de nombreuses protestations. Désormais président ou opposant, gardez vos promesses et faux semblants. Vous êtes élu pour un temps, alors laissez la place au suivant. Les Guinéens ont trop donné dans ces jardins postus. Ça n'est plus à nous de payer la facture. Je crois plus aux politiciens. Laisse tomber le pouvoir, moi je préfère ton départ. Enfin avec tes vieilles, rêver d'autres trajectoires. Laisse tomber le pouvoir, moi je préfère ton départ. Enfin avec tes vieilles, rêver d'autres trajectoires. Ma nation dans la mauvaise direction, tiraillée par l'ethnocentrisme, aveuglée par l'égoïsme, en allant droit vers la ségrégation. Soi-disant les peines ne sont plus des vrais Guinéens. Mais qui t'a dit ça enfermé? Avant le fils de Diallo était copain de Camara ou Silla. Depuis l'arrivée de Papi, même les amitiés entre les intimes sont devenues des ennemis. Église brûlée, mosquée pillée, restons les temps du père du côté des Érécorés. Quand alors nous cessons de nous entretuer pour que les vieux puissent régner. Non, 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 amour l'en fait. Jeunesse décide de se rébeller. Elle est abattue par votre armée. Des corrompus tirent sur les innocents à balles réelles. Sans être qualifiés de criminels. Conakry devenu un champ de bataille. On n'a pas vu l'Occident crier au scandale. Dans un pays où la jeunesse vit dans l'obscurité, les politiciens ne sont même pas inquiétés. Enfants contraints de traverser la Méditerranée pour avoir droit à une scolarité. Étudiants diplômés sans emploi, chômeurs en perte de voix. Défaillance d'un système politique qui ne redistribue pas son fric. Alpha, le problème et la solution. Quitte à la tête de la nation. Laisse tomber le pouvoir, moi je préfère ton départ. Enfin avec tes vieilles, rêver d'autres trajectoires. Laisse tomber le pouvoir, moi je préfère ton départ. Enfin avec tes vieilles, rêver d'autres trajectoires. Enfin avec des vieilles.
privés de ton trajectoire. Laisse tomber le pouvoir, moi je préfère ton départ. Enfin avec des vieillards, rêver de ton trajectoire.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous écoutez le Canu Info du lundi. Et là, vous venez d'écouter SPL 145, Lettre au Président, une chanson qui demande le départ d'Alpha Condé. On n'a toujours pas les résultats de l'élection en Guinée, mais on dit avec tous les Guinéens à moulin de fée.
Et on continue toujours à l'international avec la Tunisie où des manifestations contre l'État policier ont été violemment réprimées.
Ouais, alors la Tunisie, depuis la chute de Ben Ali et les révoltes de 2011, c'est un régime semi-présidentiel dont le pouvoir exécutif est partagé entre le président de la République et le Premier ministre. L'année dernière, il y a eu des élections présidentielles et législatives. L'actuel président, c'est Kais Saied, qui a été élu sur la base d'un programme anticorruption, mais qui, fondamentalement, est très conservateur sur le plan idéologique et sociétal. Il a nommé depuis un an déjà trois premiers ministres différents, tous plus ou moins proches d'Ennahda, formation majoritaire actuellement au Parlement, proche des frères musulmans, donc farouchement islamo-conservatrice. En continuité directe avec les pouvoirs profondément contre-révolutionnaires qui se sont succédés depuis 2011, cette nouvelle Dream Team au pouvoir a concocté une bombe liberticide. J'ai nommé la loi contre les atteintes aux forces portant armes, fruit d'une collaboration pluriannuelle étroite entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats de policiers, dont je vais vous parler tout de suite. Ils ont été créés après 2011, ils sont devenus de plus en plus puissants et sont capables de mobiliser beaucoup, beaucoup de moyens pour faire peser leurs intérêts, notamment en manifestant régulièrement armés pour défendre des collègues qui sont par exemple accusé de torture, ou plus récemment pour soutenir un collègue qui a frappé une avocate. Et d'ailleurs, vidéo à l'appui, il a bien frappé l'avocate, mais les collègues le soutiennent quand même. Cette loi, eh bien, elle a deux volets. Le premier volet, c'est l'immunité policière, et le deuxième volet, c'est un volet répressif. Alors, les exemples, les pires de cette loi, la criminalisation de l'outrage. Deux ans ferme pour un simple ACAP sur un panneau, plus 10 000 dinars, soit plus de 3 000 euros. Aujourd'hui, si cette loi passe, menacer ou insulter un fils de flic, oui, un fils de flic, eh bien, vous pourrez vous prendre jusqu'à 5 ans de prison ferme et 25 000 dinars en Tunisie. Photographier ou filmer une opération de police, ça pourrait aboutir à une condamnation de 2 ans de prison ferme, ce qui remet là d'ailleurs complètement en cause le développement de la liberté de la presse, le faible développement de la liberté de la presse acquis en 2011 et depuis 2011. Et pour finir, le dernier gros point, je cite en traduction, l'agent des forces armées n'assume aucune responsabilité pénale s'il cause des blessures ou un décès en cas de défense de ses biens, donc véhicule, domicile ou son lieu de travail. Donc, pour les flics, impunité totale en cas de torture, d'assassinat, si est justifiée une défense du véhicule, du domicile ou du lieu de travail. La mobilisation contre le projet de loi s'organise, même si les flics se comportent comme si la loi était déjà passée. Campagne de harcèlement contre les manifestants et manifestantes sur les réseaux sociaux, agression sexuelle pendant les manifestations, tabassage en règle, agression homophobe ou transphobe, menaces, surveillance, tout ça en toute illégalité, mais également en toute impunité. C'est marrant ça, ça nous fait un peu penser à d'autres pays. Alors côté mobilisation, il y a le collectif ASBOM, alors je ne sais pas exactement comment le prononcer, mais c'est H-A-S-E-B-H-O-M, ce qui veut dire poursuivez-les en justice. C'est un regroupement d'associations, droits de l'hommiste, féministes, de partis ou de groupes de gauche et d'extrême gauche, d'associations de défense des droits LGBTIQI+, des syndicats étudiants, et j'en passe. C'est donc une grosse coalition pour faire face à la répression. Ils ont déjà organisé plusieurs manifestations à Tunis et Sfax la semaine dernière, regroupant des milliers de personnes qui ont bravé l'interdit, évidemment réprimé par la matraque et de très nombreuses interpellations. Mais ce collectif ne compte pas en rester là, au-delà de l'abrogation de cette loi. Ils et elles demandent la fin des syndicats de policiers dont je vous ai parlé, et on les comprend. Comme d'habitude, on va suivre de près cette mobilisation et vous tenir au jus.
On enchaîne avec le Kyrgyzstan où une manifestation a lieu contre la fraude électorale.
Alors oui, c'est un peu plus qu'une manifestation, hein, puisque depuis les élections législatives qui se tenaient donc le 4 octobre, il y a un véritable mouvement de protestation qui s'est élevé au Kyrgyzstan et particulièrement dans la capitale Bishkek. Alors cette explosion sociale, elle fait suite aux résultats controversés des élections. Seulement 4 partis ont pu accéder au Parlement sur les 17 qui se présentaient et 3 de ces partis sont très proches de l'actuel président Jeenbekov. Alors, en réponse à ce mouvement de protestation, la police a été particulièrement violente. Mais malgré cette répression, dès mardi matin, les manifestants ont, donc dès le mardi matin suivant les élections, c'est-à-dire le 6 octobre, les manifestants ont pris le contrôle de la place Alato, au centre donc de la capitale, et ils ont réussi à occuper des bâtiments officiels dont la présidence, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le comité d'État pour la sécurité nationale, l'hôtel de ville et les installations centrales de la télévision. Alors, après que les manifestations ont envahi le siège du pouvoir à Bishkek, la commission électorale a annoncé l'invalidation des résultats du scrutin et provoqué donc la démission du Premier ministre. Alors, le Premier ministre, il a été remplacé immédiatement par Sadir Japirov. Sadir Japirov, c'est un opposant qui avait été libéré de prison la veille par les manifestants. Alors, je précise qu'il était en prison parce qu'il avait été condamné suite à une terrible répression de manifestants dans une mine d'or du pays en 2013. Donc, lundi 12 octobre, l'état d'urgence a été réinstauré dans la capitale. Le 15, c'est le président Sooronbay Jeenbekov qui démissionnait. Ensuite, ont démissionné également les maires de Bishkek et de Osh, qui est la deuxième plus grande ville du Kyrgyzstan. Alors, du côté des manifestants, depuis le 5 octobre, les affrontements avec la police ont fait un mort et au moins 1200 blessés. Donc, même s'il y a eu des démissions en cascade, c'est le fruit de gros affrontements. Alors ça, c'est pour la situation aujourd'hui, qui est donc particulièrement instable. On va essayer un peu de comprendre le contexte régional et international dans lequel se joue cette crise politique. Alors, le Kyrgyzstan, c'est un pays qui compte 6,5 millions d'habitants. Il est assez divisé à la fois sur le plan géographique et historique. Donc le nord et le sud sont séparés par une chaîne montagneuse. Le nord est plus urbain. Il y a un gros essor des mouvements chrétiens et protestants, tandis qu'au sud, qui est plus rural, la majorité de la population est musulmane. Alors le pays qui est relativement enclavé, il est quand même l'objet d'une grosse concurrence géopolitique entre Moscou, Washington et Pékin depuis son indépendance en 91. La base américaine, elle a été fermée en 2014, mais la Russie dispose toujours d'une base aérienne sur le territoire. Et pour son voisin chinois, le Kyrgyzstan, c'est vraiment une plaque tournante commerciale essentielle. Donc, tout comme au Karabakh dont on avait parlé ici, l'instabilité dans le pays pourrait avoir des conséquences très importantes pour les grandes puissances mondiales qui, donc, on l'imagine, ne manqueront pas de s'adonner à l'ingérence la plus insupportable comme ils en ont l'habitude. Par ailleurs, le Kyrgyzstan, c'est le deuxième pays le plus pauvre d'Asie centrale. Et son économie, elle dépend énormément des envois de fonds depuis l'étranger, notamment la Russie et la Chine. Il y a aussi l'agriculture et les mines d'or, les mines d'or qui appartiennent par ailleurs à des capitaux étrangers. Mais du coup, en raison de son économie, la pandémie de coronavirus a eu des conséquences encore plus désastreuses que dans d'autres régions du monde, puisque par exemple la fermeture des frontières avec la Russie et la Chine a entraîné une baisse de 15% des envois de fonds. Et la fermeture de la frontière chinoise a aussi réduit énormément les échanges commerciaux. Et c'est une des grosses sources de revenus pour le Kyrgyzstan. Du coup, pour les Kyrgyz, les conditions matérielles d'existence se sont vraiment beaucoup dégradées ces derniers mois. Ça explique en partie la révolte. Quand on entend un peu des témoignages des manifestants, ils parlent beaucoup de ça, de la mauvaise gestion de la crise du Covid. Par ailleurs, depuis le début de la révolte, il y a eu plusieurs mines d'or ou de charbon qui ont été attaquées par des bandes armées. Alors, c'est difficile de trouver plus d'informations sur ces attaques, qui pourraient tout à fait s'apparenter à de la réappropriation. Mais malheureusement, au Kyrgyzstan, le crime organisé est extrêmement puissant et il est extrêmement lié aussi au milieu politique et d'affaires. Du coup, le risque de récupération et surtout de voir émerger des groupes du crime organisé agissant pour le compte de réseaux politiques est très grand. Mais aujourd'hui, toutefois, dans la rue, en tout cas dans la capitale, ce sont des jeunes qui se mobilisent face à un régime oppressif qui ne leur offre que la misère et l'exploitation. Donc les fraudes électorales ne passent plus au Kirghizistan et c'est tant mieux. Et nous, on souhaite beaucoup de courage à ceux qui prennent la rue aujourd'hui.
Et on enchaîne maintenant avec la situation en Thaïlande où règne une ambiance de fin de règne.
Oui, depuis mi-juillet, un mouvement populaire contre la monarchie et pour la démocratie persiste en Thaïlande, rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Ces manifs, elles font suite à la dissolution en février dernier du parti Anakot Mai, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça veut dire Nouvel Avenir, un parti qui a été fondé en 2018. Et il a été dissolu, pourquoi ? Parce qu'on l'a accusé, parce que lui-même avait accusé de conflits d'intérêts et de trafic d'êtres humains, en particulier des réfugiés Rohingyas. Donc des ministres avaient été accusés, 6 ministres du gouvernement avaient été accusés, donc ils ont réagi au quart de tour, ils ont interdit le parti. L'interdiction de ce parti, qui était donc pro-démocrate et surtout très populaire chez les jeunes, avait entraîné l'occupation d'universités par les étudiants au début de l'été, et en particulier à Bangkok. Après un temps mort, imposé par les mesures sanitaires en juillet et en août, le mouvement a repris de plus belle le 8 juillet dernier, à l'occasion de la commémoration devant l'emblématique Monument de la démocratie, commémoration de la révolution de 1932, révolution qui avait abouti à l'établissement d'une monarchie constitutionnelle et à la création d'une assemblée nationale. Depuis juillet donc, la contestation n'a cessé de s'amplifier autour de trois mots d'ordre, la démission du gouvernement, la modification de la constitution et la fin du harcèlement des opposants. Par exemple, on sait que 9 opposants ont disparu, c'est-à-dire ont été assassinés depuis 2016. Plus généralement, c'est l'institution monarchique et la junte militaire qui la soutient qui est remise en cause par les manifestants avec ce qu'elle comprend d'autocratisme et de domination, comme l'illustre, par exemple, l'obligation de vénération du souverain, le crime de lèse-majesté, passible de peine de prison allant de 3 à 15 ans, les avantages fiscaux accordés à la royauté, et j'en passe. Arrivé sur le trône en 2016, le roi actuel, Rama X, est d'ailleurs particulièrement impopulaire depuis qu'il a renforcé les pouvoirs d'une monarchie déjà richissime et toute puissante. Il est connu pour être le roi du monde le plus riche, selon Forbes. Pour donner une idée du poids de la monarchie dans le pays, il faut s'imaginer que chaque spectacle, chaque programme télé débute par l'hymne royal. Il faut s'imaginer que tous les jours, les actualités de toutes les chaînes s'ouvrent sur les nouvelles de Sa Majesté. Que tous les lundis, on demande au peuple de porter un t-shirt jaune en honneur du roi. Il faut s'imaginer que chaque étudiant reçoit son diplôme des mains d'un membre de la famille royale. Il faut s'imaginer aussi qu'il y a des portraits géants de la famille royale dans les rues et dans la ville. Alors, pour comprendre maintenant la singularité de ce mouvement, il faut rapidement revenir sur la composition des luttes de ces dernières années, spécifiquement entre 2006 et 2014. À cette époque, les oppositions étaient complètement polarisées entre deux camps. Il y avait d'un côté les chemises jaunes, royalistes, et de l'autre côté les chemises rouges, composées de partisans de l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, qui a été déposé par un coup d'état militaire en 2006. Mais les chemises rouges étaient aussi soutenues par d'autres minorités. Ce conflit, qui était un conflit en partie armé, qui a été très très violent, il reflétait en réalité une opposition de classe, puisque les chemises jaunes représentaient les intérêts de la famille royale et de l'oligarchie surconcentrés à Bangkok, tandis que les chemises rouges étaient soutenues par plusieurs minorités, ainsi que des groupes trotskistes et maoïstes qui exigeaient la justice sociale et qui étaient socialement et géographiquement issus des zones rurales pauvres du nord et du nord-est. Bref, ce conflit, il a fini en massacre, et surtout en massacre de dizaines de chemises rouges qui ont été tuées par des militaires. Désormais, cette dichotomie, elle est toujours présente, elle est latente, mais le mouvement ne défend plus un leader politique, il ne demande pas seulement la dissolution du Parlement, mais il s'attaque cette fois-ci directement à l'institution royale, ainsi qu'à son ciment idéologique, qui est cristallisé autour de la devise « nation, religion, monarchie ». À la suite des chemises rouges, donc, la colère qui s'exprime aujourd'hui déconstruit le grand récit national qui associe une monarchie bienveillante à un ordre du monde bouddhiste harmonieux. D'autant plus que cette colère s'inscrit aussi au cœur d'inégalités socio-économiques monstrueuses. En effet, dans ce pays industrialisé qui bénéficie pourtant d'une croissance très régulière, seules une dizaine de familles ont amassé des fortunes énormes grâce à leur monopole sur tous les secteurs clés. À tel point qu'en 2018, 1% de la population possédait 70% des richesses nationales, ce qui avait valu à la Thaïlande le triste titre de pays le plus inégalitaire au monde. Par ailleurs, c'est aussi cette fracture sociale qui explique le soi-disant miracle économique thaïlandais qui en réalité est dû à une force de travail mobile et bon marché qui vient essentiellement des zones rurales. Bref, à ces facteurs économiques s'ajoute que depuis les années 90, le pouvoir est confisqué aux mains de trois institutions qui gèrent tout le pays, la bureaucratie civile et militaire, qui enchaîne coup d'État sur coup d'État, le clergé bouddhiste et le roi, qui a une position ultra-paternaliste. C'est donc dans ce contexte que la contestation rassemble une jeunesse urbaine, très étudiante, voire lycéenne, mais également, on l'a dit, d'autres minorités soumises à la répression militaire, comme des travailleurs là-haut du Nord-Est, des migrants birmans ou encore les musulmans du Sud. Et si le mouvement a déjà obtenu de petites victoires fin août, comme par exemple avec l'annonce d'une révision constitutionnelle, rien ne garantit sa pérennisation. D'un côté, le souvenir de la répression militaire sanglante des années passées doit nous maintenir en alerte. De l'autre, la remise en cause de la monarchie parlementaire s'exprime pour l'instant sur un mode majoritairement réformiste. En tout cas, force au peuple thaïlandais, abat l'oligarchie, abat la monarchie. Et en hommage du coup à leur lutte, on va écouter ce qui est devenu l'hymne national de la contestation. C'est le morceau « Ce qu'a mon pays » d'un collectif de rappeurs qui s'appelle « Rap Against Dictatorship ».
ประเทศที่ดีจังแบบพระโคตร
C'était le morceau « Ce qu'a mon pays » d'un collectif de rappeurs thaïlandais qui s'appelle « Rap Against Dictatorship ».
Et tout de suite, on enchaîne avec donc un sujet au national sur la marche des sans-papiers de ce week-end à Paris.
Oui, on a pas mal parlé de la marche des solidarités dans cette émission. D'ailleurs, comme il y avait eu un bug sur le super reportage sur leur passage à Lyon, vous pouvez le retrouver sur le blog du Canu Info du lundi et l'écouter 15 minutes en direct de ces plusieurs étapes dans la région lyonnaise de la marche des solidarités. Et donc cette marche qui était partie le 19 septembre de Marseille, Montpellier et de plein d'autres villes en France pour converger vers Paris le 17 octobre, a bien convergé à Paris en cette date symbolique, notamment de la répression des Algériens qui avaient été noyés dans la Seine le 17 octobre 1962 par la police de 61 pardon, de par la police de Paris dirigée par Papon à l'époque. Donc cette marche des solidarités avait pour objectif de marcher sur l'Élysée pour demander la régularisation sans condition de toutes et tous les sans-papiers, un logement décent pour toutes et tous et la fermeture des centres de rétention administrative où on enferme les personnes pour la seule raison qu'elles n'ont pas de papiers. Malgré l'interdiction du parcours entre République et Place de la Concorde par la préfecture de police de Paris, au motif que la marche aurait traversé des sites emblématiques et institutionnels sensibles, bah oui, ils ne voulaient pas vraiment que la marche s'approche de l'Élysée. Ils ont eu un peu peur finalement. La manif est restée déterminée et s'est rassemblée à 14h Place de la République et a marché avec plusieurs dizaines de milliers de personnes et à peu près 270 organisations représentées de divers horizons. Et les sans-papiers restent donc déterminés pour obtenir leur régularisation, la fermeture des centres de rétention administrative et un logement décent pour toutes et tous. Et ils préparent dès à présent un acte 4 qui sera la suite de ce troisième acte qui était la manifestation de samedi à Paris.
Et on enchaîne tout de suite sur un sujet autour de l'Union Sacrée, le retour.
Voilà, c'est reparti, on prend les presque mêmes et on recommence. Alors après un acte horrible, détestable, insupportable, tous les termes que vous voulez, et on est d'accord avec, c'est-à-dire la décapitation d'un prof de collège d'histoire géo par un mec de 18 piges complètement taré, clamant des revendications fondamentalistes islamistes, parce que ce prof a osé montrer une caricature de Mahomet en classe, et ben on nous resserre, on nous ressort l'Union nationale, l'Union sacrée, avec son lot de républicanisme, de patriotisme, d'islamophobie et de racisme, pour ne parler que de ça. Ah, ils étaient tous là à Paris, ce week-end. Les ministres actuels, les anciens ministres de droite, comme de gauche. Tiens, salut Manuel Valls, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Allant de la France insoumise à l'extrême droite, même si à l'extrême droite, inutile de vous dire que leur angle d'attaque, c'est le prétendu laxisme de la justice, voire de la police. Hein, l'Union nationale a duré juste quelques jours pour l'extrême droite. Alors, pour Mélenchon et la France insoumise, je vous laisse découvrir la superbe sortie raciste du grand chef tout à l'heure dans notre citation de la semaine en fin d'émission. Depuis le drame Macron et Blanquer, donc, font de la surenchère insupportable, exprimant leur amour profond vis-à-vis et envers les enseignants et enseignantes. Macron a même parlé du plus beau métier du monde. Non mais c'est quoi ce foutage de gueule ? Depuis des années, les gouvernements successifs ont massivement supprimé des postes et réduit les budgets de l'éducation nationale, classes surchargées, locaux vétustes, non-remplacement des profs absents, couplé à une répression sans précédent des enseignants mobilisés et syndiqués, alors pas à la CFDT, hein, mais d'autres syndicats, contre les politiques qui n'ont eu de cesse de creuser les inégalités entre établissements et entre élèves, tout ça avec un relais politico-médiatique bien dégueulasse. Allez demander aux enseignants dans les lycées qui se mangent cette année l'application double de la réforme du bac et des lycées s'ils sont contents de leurs conditions de travail et des répercussions sur les élèves et les établissements. Allez demander aux profs dans leur ensemble s'ils sont contents de la gestion sanitaire dans leurs établissements respectifs et s'ils se sentent respectés par le pouvoir en place et s'ils le sentent, cet amour profond de Macron et de Blanquer. Probablement non. Mais le pire, c'est la surenchère islamophobe qui n'en finit plus. Quand Macron ose dire, sans honte, je cite, « ils ne passeront pas », du fameux « no pasaran », hein, en référence au mot d'ordre historique des antifascistes espagnols, ça donne vraiment envie de tout casser. Car si on peut considérer les fondamentalistes musulmans comme des fachos, il en va de même pour les catholiques intégristes, les juifs ultra-orthodoxes, j'en passe, tous les intégrismes et intégristes religieux. Et pourtant, ce sont bien les musulmans qui subissent une surenchère de propos et de lois racistes ces dernières années, dans les écoles, les universités, dans les quartiers populaires. Que font le gouvernement et ses relais médiatiques, si ce n'est de la surenchère islamophobe, en établissant un lien scandaleux entre la tragédie de Conflans-Sainte-Honorine et son projet de loi sur le séparatisme, paye ton nom de loi, dont la logique n'est autre que de renforcer l'amalgame entre musulmans, musulmanes, intégristes et terroristes, encore une fois. Et presque tout le monde applaudit. Pour finir ce sujet, on rappelle donc qu'on apporte tout notre soutien aux proches de Samuel Paty, le prof décapité, face à l'horreur et à la tristesse qui doit s'abattre sur ceux et celles de son entourage. Mais, car il y a un mais, on ne se laissera pas instrumentaliser par cette nouvelle union nationale, union sacrée, toujours autant nauséabonde.
Et on enchaîne au national avec l'expulsion du village de Donge.
Le village du peuple à Donge a été expulsé, en effet, jeudi 15 octobre. Là-bas, des militants et des militantes s'opposaient à un projet de zone industrielle depuis avril 2019. Le village de Donge, c'était des bâtiments historiques, une grange, un four à pain du XVIIIe siècle, des arbres bicentenaires et 57 hectares de terres agricoles que des occupants et des occupantes étaient venus protéger. Pas très dangereux, diriez-vous. Situé à 15 kilomètres de Saint-Nazaire à peu près, cette ZAD regroupait des militants donc de divers horizons, des écologistes, des zadistes du Carnet ou encore des gilets jaunes de Saint-Nazaire, tous réunis autour du même slogan « Nous sommes la Loire qui se défend ». Mais qui se défend de quoi au juste ? Eh bien, de la nouvelle ZAC, la nouvelle zone d'aménagement concertée appelée Six Croix 2, qui doit constituer le troisième parc stratégique de l'agglomération. Là, il y a deux visions de la nature qui s'opposent. Il y a celle de la communauté d'agglomération de la région nazérienne qui promeut la sanctuarisation de quelques petits hectares de nature pour justifier la massive industrialisation et la bétonisation du territoire alentour. Et il y a celle des occupants et des occupantes qui entendent protéger le vivant tout court, sans céder à des logiques de compensation ou d'aménagement productiviste. Jeudi matin donc, ce sont des tractopelles, des drones, des gendarmes équipés de fusils d'assaut qui ont débarqué dès l'aube pour tout détruire, pour tout saccager, arrêtant au passage un militant placé en détention provisoire. Faut dire qu'en Loire-Atlantique, on cumule les projets inutiles les plus dingues. Surf Park, zone industrielle du Carnet, plateforme logistique Amazon et maintenant, ça vient de sortir, le plus gros projet de méthanisation de France. Malheureusement, dans le 44, les projets destructeurs ont la patate.
Et sur cette belle chute, on enchaîne avec le décès d'une étudiante à Tours à cause du manque de moyens.
Ouais, alors.
On tourne autour de la pomme de terre aujourd'hui.
C'est vrai. On en reparlera à la fin de cette émission. Alors, depuis plusieurs jours, revenons sur ce qui s'est passé à Tours. Des étudiants et des étudiantes manifestent leur colère devant la direction de l'université. Pourquoi ? Eh bien, une étudiante de 30 ans, inscrite en master de sociologie sur le site de Fromont, donc lié à l'université de Tours, a fait un malaise ce mercredi 14 octobre. Les étudiants et étudiantes présentes à ce moment-là ont immédiatement appelé les pompiers et tenté de trouver un défibrillateur. Sauf que, car il y a un sauf que, ils n'en ont pas trouvé de défibrillateur. De plus, la direction de la fac était injoignable. Les pompiers ont donc été retardés à l'entrée de l'université, car l'ouverture du portail nécessitait un badge. Et il a fallu de très longues minutes pour trouver quelqu'un disposant de ce badge. Et histoire de clôturer le tableau, qui est déjà très beau, l'ascenseur permettant d'atteindre l'étage où se trouvait l'étudiante était trop petit, oui, trop petit, pour un brancard. Les pompiers ont donc dû prendre l'escalier aller-retour. Réussissant enfin à atteindre la jeune femme, les pompiers sont restés une heure sur place pour tenter de la réanimer, puis de la transférer à l'hôpital. Mais malheureusement, ils sont arrivés trop tard. L'étudiante n'a pas survécu. D'où la colère des étudiants et des étudiantes, et de certains enseignants, bien sûr, qui ont communiqué aux médias ce message où ils décrivent le site de Fromont, je cite, « totalement laissé à l'abandon et les étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, seuls, laissés à eux-mêmes dans les moments les plus critiques. » Comble du cynisme, la présidence de l'université de Tours a communiqué dès le lendemain en expliquant que, je cite, « la conformité du site de Fromont ayant été à nouveau constatée ce jeudi soir, les cours pourront donc s'y dérouler à nouveau dès demain. » Aucune remise en question donc. Alors qu'on le sait, le problème a bien été l'absence de défibrillateur, un badge introuvable pour ouvrir un portail aux pompiers et un ascenseur trop petit pour un brancard. À force de baisser les budgets, voilà où trouvent les directions des facs pour faire des économies. Au-delà des suppressions de postes, des fusions ou des suppressions de filières, des non-paiements de salaires, eh bien ce sont aussi les normes de sécurité. Car le site de Fromont, en tant qu'établissement public regroupant plus de 500 personnes, est tenu par décret de disposer de défibrillateurs automatisé externe, et ce n'était pas le cas. Alors, on le disait, on le savait, la précarité tue à l'université. On peut dorénavant le dire également, le manque de moyens à l'université tue.
Et on fait une petite pause musicale avec un morceau de Nadia Rose qui s'appelle Squad.
Voilà, une féministe britannique.
Some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try corn me, but I smell defeat like a hole in your crap. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. With my team, Squally, where you at, my J's? I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what, that squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what, that squad.
I'm rolling 10 gear up on that squad. Fucking with my squad?
I think not. Me and my bitches, we roll deep, and we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, hoping the car disposed of evidence. Cause nobody bad like us.
Nobody bad like us.
But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squad, hey, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what, that's what. I'm rolling 10 gear up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin tea when we pose for the photos. Some girl are braided, some girl are in convos. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoots. What else? Step on the gas, take the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming.
I'm coming.
And if I ain't got the wish, I'm running. I do it for a minute, ain't nothing. Squad, hey, let me see you brush your something. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi et vous venez d'écouter Nadia Rose. Le titre c'est Squad, c'est donc une féministe britannique. Et tout de suite, on enchaîne avec le local et un point sur la mobilisation contre une dentiste néo-nazie à Lyon.
Oui, ce mardi 13 octobre, le groupe antifasciste Lyon et Environ a partagé sur son compte Twitter des photos issues du compte Instagram d'une dentiste en poste à Satonécamp dans la région lyonnaise, où elle exhibe ses tatouages et ses vêtements nazis. Donc on voit entre autres sur ces photos son tatouage de l'insigne allemand Totenkopf, qui est l'insigne des divisions SS chargées du système concentrationnaire responsable, on le rappelle quand même, de l'extermination d'environ 3 millions de personnes, avec 4 à 6 millions de personnes qui ont transité par les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut y voir aussi son magnifique tatouage d'une fiole de Zyklon B, donc le gaz qui a servi à exterminer ces millions de personnes. On y voit aussi une photo d'elle aux côtés d'un membre de l'organisation néo-nazie Blood and Honor qui a été dissoute. Et d'autres photos de t-shirts, bref,
une militante
qui s'affiche sans complexe. Ce partage donc par le groupe antifasciste Lyon et Environ a été relayé par la presse locale et nationale. Et un travail de terrain a été mené par l'organisation lyonnaise, par la distribution de tracts et par l'affichage à Satonécamp pour prévenir les habitants et les habitantes et les potentielles patientes en fait, et patients de cette dentiste, avec des affiches « La dentiste de votre quartier est une nazie ». Résultat de cette campagne, la dentiste a supprimé son compte Instagram déjà, et l'entreprise Labellia, donc le cabinet dentaire qui l'emploie, l'a licencié suite à un entretien. Le parquet a ouvert une enquête à son encontre pour incitation à la haine raciale, et elle est aussi convoquée chez l'Ordre des chirurgiens dentistes du Rhône, ses convictions néo-nazies assumées n'étant peut-être pas tout à fait compatibles avec le serment d'Hippocrate. Malheureusement, la répression touche aussi les membres du groupe Lyon antifasciste et Environ, puisque le cabinet dentaire Labellia apporte plainte aussi contre les auteurs de ce qu'elle qualifie de campagne de dénigrement. Et ils sont maintenant visés par une enquête pour atteinte à la vie privée en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Je crois qu'effectivement, troubler la tranquillité des nazis, c'était bien leur objectif. Objectif réussi.
Et qu'on ne peut que saluer.
C'est vrai, bien joué à vous. Et alors maintenant, de quoi on parle ?
Eh bah, ben, on parle de quoi ? Bah, à Lyon, il s'est passé pas mal de trucs à Lyon ce week-end.
Eh ouais, quand même.
Et à commencer aussi en parallèle avec la mobilisation, du coup avec l'arrivée de la marche des solidarités à Paris, il y a eu à Lyon aussi un appel à se mobiliser sur la question des centres de rétention, avec une manifestation appelée Vendredi, contre en particulier pour la fermeture évidemment des centres de rétention, mais aussi plus spécifiquement ciblée contre la PAF. Vous savez, la PAF, c'est la police aux frontières. En gros, c'est des flics matons qui infligent toutes sortes de sévices aux prisonniers et aux prisonnières. C'est l'outil principal de la politique raciste de tri des étrangers. C'est le bras armé de l'État, je ne sais pas comment vous le dire, dans son entreprise de criminalisation. C'est ceux qui persécutent à l'intérieur, qui enferment les sans-papiers. Et à Lyon, comme partout en France, ils tabassent quasiment quotidiennement et il n'y a que quelques témoignages qui sortent, dont un qui est sorti du CRA de Lyon début septembre sur Mediacité.
Connaissez-vous le slogan « Et paf, la paf » ?»
Bon, voilà.
Comment rebondir après ça ?
Il y a eu aussi le lendemain un rassemblement, un parloir sauvage très précisément devant le centre de rétention de Lyon, on le rappelle, qui est à Saint-Exupéry, c'est-à-dire près de l'aéroport, à Colombier-Saunieu. Voilà, une cinquantaine de personnes s'y sont rassemblées et... Non, peut-être une cinquantaine.
Non, mais on t'a pas forcé à réviser les chiffres, on sourit juste.
Allez, 45, ça marche.
Pour soutenir les détenus à l'intérieur. Mais il y a d'autres rendez-vous aussi
alors,
le week-end à Lyon.
Le samedi, oui, puisque très subtilement, il y avait des rendez-vous à 13h12 le samedi après-midi. Donc gilets jaunes, antiracistes et antifascistes. Cette mobilisation a été... Alors c'était un appel national à Lyon. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui s'y sont retrouvées. Ça a été finalement relativement habituel comme trajet de manif non déclaré, Bellecour, lacrymo, répression, quai du Rhône, et puis...
Interpellation,
8 a priori, et une nasse finale à Gerland, comme ils ont l'habitude de le faire. Maintenant, le parcours est rodé du côté répressif de la police.
Et toujours au local, on peut parler de ce court répit accordé aux salariés de Vinci Airports, puisque l'inspection du travail a retoqué le plan de suppression d'emplois qui avait été négocié en juillet par Vinci et qui prévoyait la suppression de 1 poste sur 10. Et donc Vinci va être obligé de revoir sa copie. On espère que ça sera pour le mieux pour les salariés qui risquent quand même de se faire virer pour plus de 10% d'entre eux.
Et non, après toi, je te
laisse. Des politesses incroyables.
Avec la citation de la semaine.
Ah mais oui, bien sûr. Et oui, on en parlait tout à l'heure. On vous laissera deviner qui nous parle. C'est une citation un peu raciste cette semaine. On inaugure d'ailleurs cette nouvelle rubrique du Canu Info aujourd'hui.
On vous en a parlé tout à l'heure. Hein, si vous avez bien suivi,
vous devriez deviner qui parle.
Alors, attention.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le précise, il y a quelques instants avant d'entrer sur le plateau, nous étions tous les deux masqués.
Et non, ce n'est pas le bon. Eh bien,
la rubrique est en test.
Je crois qu'on l'a. Qu'est-ce que c'était que ce truc étrange, hein, bizarre. Alors attention, c'est parti.
Les Tchétchènes. Comme à l'époque, le gouvernement...
Est-ce qu'on rappelle que l'assaillant présumé était d'origine tchétchène?
Oui, et c'est la troisième fois qu'on a affaire à un Tchétchène. Les Tchétchènes sont arrivés en France... parce que le gouvernement français, qui était très hostile à M. Poutine, les accueillait à bras ouverts. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France.
Voilà, c'était qui alors?
Vous aurez bien sûr reconnu notre très cher Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un petit mot à tous les gens qui continuent de le soutenir par contre vents et marées. Voilà, il est quand même assez fort pour les remarques bien patriotiques, tout ça. Mais là, c'est carrément complètement raciste. Voilà.
Complètement. Alors on connaissait déjà, il avait déjà participé à l'Union nationale et l'Union sacrée sous d'autres, par d'autres biais. Mais là, c'est son côté anti-tchétchène est vraiment très intéressant. On le remercie donc pour cette citation.
Voilà, et on est content d'avoir inauguré cette rubrique avec le grand Jean-Luc.
Avec Méluche. Et on finit donc avec... le traditionnel, mais néanmoins fort, passionnant
agenda. Oui, alors, on n'a pas énormément de choses à vous proposer.
Vous
en
ne pourrez rien faire à partir de 21h.
Et du coup, quand même, on voulait signaler le procès le 21 octobre de Génération Identitaire, dont vous en souvenez sans doute, en avril 2018, le groupe avait fait une action coup d'éclat au col de l'échelle à grand renfort d'hélico, de médias, de tout ce qu'on veut.
De bandes immenses, en tout cas plein de budget.
Pour empêcher le passage des exilés de la frontière. Et donc ce mercredi à Grenoble se tiendra leur procès. Et donc le rendez-vous est à 18h devant le tribunal, j'imagine.
N'hésitez pas à aller les dénoncer en tout cas.
Et du coup, comme on n'a pas grand-chose à vous proposer physiquement, on vous invite déjà à répondre à des appels lancés sur les internets mondiaux. Alors tout d'abord, il y en a un pour soutenir B, donc, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville. Il est incarcéré dans le cadre d'une enquête sur l'incendie de plusieurs antennes relais dans le Doubs et dans le Jura. Donc ça, c'est des choses qui sont passées au printemps. Ses proches ont déposé une caisse de soutien à la librairie La Griffe, qui se situe rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement. On vous invite à remplir de tous les sous que vous n'aurez pas dépensés au bar. Autre appel à don, cette fois-ci pour le squat de Fézin, qui abrite une centaine de personnes. Donc c'est une ancienne école rachetée par Total, si je ne m'abuse. Et vous pouvez alimenter la cagnotte en ligne sur CotizUp, donc CotizUp. Et vous tapez soutien Fézin et vous trouverez la cagnotte. Vous pouvez aussi trouver sur Rébellion le lien direct de la cagnotte. Et enfin, des camarades de Lons-le-Saunier dans le Jura. Et c'est quand même la période pour se barrer de Lyon, aller soutenir des luttes ailleurs, puisqu'on est sous couvre-feu. Donc ils appellent à du renfort suite à la réquisition de 2 immeubles d'habitation et d'un grand bâtiment collectif. C'est un ancien complexe sportif. Vous pourrez trouver toutes les informations sur Rébellion, et ils demandent de l'aide pour les travaux, tout ça, tout ça.
Et dernier point, car il en existe bien un, toujours. Si vous êtes opposé au couvre-feu, ce bande de rebelles que vous êtes, vous pouvez très bien aller le samedi à partir de 20h30, place Mazagran à la Guillotière, dans le 7e. Alors samedi, là, celui-là, il y avait un rassemblement de malades, hein, au moins...
La dépendaison de crémaillère de la démocratie.
La dépendaison de crémaillère de la démocratie. Il y avait, nous a-t-on dit, zéro flic, mais aussi pas grand monde. Mais n'hésitez pas à venir renforcer ce groupe de rebelles le samedi, donc à 20h30, place Mazagran.
Et oui, parce que à bas le couvre-feu, mais vive le feu qui couve.
Voilà, oh, merci, bonsoir, à lundi.
Voilà, merci,
prochain.
Au revoir.
Les madames s'offrent pour que dalle, où la misère s'acharne avec force sur le crâne des kidames. Scarfour, regard vide et poches pleines se côtoient, où la chance n'est plus un taf mais d'avoir un toit. Où l'état du citoyen se dégrade par l'état, fait que la finance insidieusement a pris le pas. Qu'elle est dans Scarfour, où diable ricane, où je me perds jusqu'à adopter la canne. Amarré, voyant le badaud qui se pavane, faisant de même avec moi dans ce mélodrame. I can even sing. My life is a two-drunk, wherever it means drunk. It's a steal about last beat, but I can even play. I was the devil in disguise, today I'm naked. Now you can touch the real bad of a man burned and buried. Since I gotta leave my life alone, I always have my head in sand. But for the blues I bite my bone, forth fight and fight again. Me and my witches rolling side by side. I see even in crossroads down on the line. But if you know what you need, you can miss a good direction. And if you just wait and see, you'll see there's no reaction from the ground up above. No, Lord has given me some genius, just got to let the window open and be inspired by the rest of us. But nobody tell and nobody know, what is hell, what is below, what is hell, what is below, what is hell, what is below.
Et oui les amis, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, vous venez d'écouter One More Solo avec le titre Lipstick.
Et puis après c'était L'Incarcéré interprété par Julie, et pour finir Even on Crossroads du groupe Scarecrow.